de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui, avec moi Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Des avions de combat turcs frappent des cibles des milices kurdes en Irak et en Syrie. La Thaïlande est exempte de quarantaine pour les recevoir de vaccins complets. 5 cas de Covid découverts, les Tonga se préparent au confinement. Les États-Unis soutiennent le renforcement des capacités de l'infrastructure numérique de l'Indonésie. L'Indonésie et la Nouvelle-Zélande discutent de la coopération commerciale et énergétique. L'Indonésie, assistée par le Canada, gère le programme Land for Life pour protéger les forêts du sud de Sumatra. La ministre indonésienne des Finances est optimiste quant à la croissance économique élevée au premier trimestre malgré l'existence d'Omicron. Bonjour Gétard, voici les nouvelles en complet. Des avions de combat turcs ont frappé des cibles de milices kurdes, notamment des camps d'entraînement, des abris et des dépôts de munitions en Irak dans le nord de la Syrie. Selon le ministère turc de la Défense, mercredi, tous les avions de l'opération qui auraient ciblé les régions de Derik, Sinjar et Karachak sont ensuite retournés à leur base. Le ministère turc n'a pas fourni d'informations sur le nombre de victimes de l'attaque. Le ministère turc de la Défense a déclaré que ces opérations aériennes visaient la milice du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, qui a des bases en Irak, ainsi que la milice kurde syrienne, YPG, toutes deux considérées par la Turquie comme des groupes terroristes. Les avions de combat turcs ont par le passé effectué des frappes aériennes similaires. Pendant ce temps, le PKK a pris les armes contre le gouvernement turc en 1984. Plus de 40 000 personnes sont mortes dans le conflit, qui se déroulait alors principalement dans le sud-est de la Turquie. Depuis mardi, le 1er février, la Thaïlande accueille des touristes entièrement vaccinés de tous les pays et régions dans le cadre d'un programme de voyage sans quarantaine. La dernière étape pour relancer le secteur du tourisme est la reprise économique du pays. Les touristes peuvent demander une entrée sans quarantaine tant qu'ils sont entièrement vaccinés et subissent un test RT-PCR. les premiers et cinquièmes jours de leur arrivée en Thaïlande. Comme l'a rapporté Reuters mercredi, cette ouverture plus large devrait amener jusqu'à 300 000 touristes en Thaïlande en février et ce nombre devrait continuer d'augmenter en mars, selon le porte-parole du gouvernement Thanakorn Wonbunkongchana. Auparavant, le programme sans quarantaine était limité aux touristes de plus de 60 pays et régions considérées comme à faible risque. Le nombre d'arrivées de touristes internationaux dans le pays est tombé à 427 869 en 2021, dont plus de trois quarts en novembre et décembre. Les Tonga se préparent à entrer en confinement mercredi après que deux cas de COVID-19 aient été découverts chez des dockers et trois dans une famille du pays. Un responsable a déclaré que les deux premiers cas provenaient d'un quai différent de celui utilisé par les navires de la marine étrangère envoyant de l'aide dans un pays récemment touché par les tsunamis. Les inquiétudes concernant la COVID-19 augmentent après que des navires et des avions internationaux aient commencé à arriver pour livrer de l'eau, des tentes et de l'aide alimentaire aux Tonga. Le pays du Pacifique isolé n'avait auparavant enregistré qu'un seul cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le navire de la marine australienne HMAS Adelaide est connu pour avoir 23 cas de COVID par son équipage lorsqu'il a accosté au quai de Vuna la semaine dernière et a déchargé 250 colis d'aide dans la zone de quarantaine. Mais le chef adjoint de la mission des Tonga en Australie, Curtis Tihalongingi, a déclaré à Reuters que les deux cas avaient été trouvés sur un autre quai et pas celui utilisé par le HMAS Adelaide. Les États-Unis continuent de s'associer à l'Indonésie pour soutenir le renforcement des capacités dans le secteur des infrastructures numériques et des télécommunications. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Sun Yong Kim, lors de l'événement du laboratoire communautaire du projet Télécom Infra TIP à l'Université de Telkom virtuellement à Jakarta mercredi. L'ambassadeur Sun a également déclaré que le gouvernement américain et le secteur privé soutenaient un avenir sûr pour les réseaux indonésiens de nouvelle génération, notamment la 5G et Open RAN. TIP est un consortium d'entreprises dirigé par les États-Unis. Sun a déclaré que les entreprises américaines élargissaient également leurs partenaires avec des institutions telles que le TIP Community Lab pour combler le déficit de compétences numériques. Ils aident également les étudiants à devenir des travailleurs qualifiés dont l'Indonésie a besoin dans 2030. Le ministre coordinateur des Affaires économiques de la République d'Indonésie, Erlangga Hartanto, a rencontré l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en Indonésie, Kevin Burnett, à Jakarta mercredi. Ils ont discuté des efforts de relance économique dans le secteur du commerce, de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie. Cela a été transmis par l'ambassadeur Burnett dans une déclaration reçue jeudi. Burnett a également déclaré que l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande avaient pour objectif d'augmenter la valeur du commerce bilatéral de 4 milliards de dollars néo-zélandais jusqu'en 2024. Il est donc important que les deux pays renforcent leur coopération afin que cet objectif puisse être atteint. À cette occasion, Erlangga Hartanto a invité la Nouvelle-Zélande à être partenaire du programme de transition énergétique. L'une des collaborations qui peuvent être développées est la géothermie. Le secteur de l'énergie, en particulier la transition des énergies fossiles vers les énergies nouvelles en renouvelables, EBT, est un agenda prioritaire du G20 qui a attiré l'attention internationale, y compris la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement indonésien est aidé par le Canada dans la mise en œuvre du programme Pêchage durable pour des moyens de subsistance résilients au climat en Indonésie, Land for Life, afin de préserver la forêt dans deux districts du sud de Sumatra. Le chef de l'Agence de planification du développement régional du sud de Sumatra, Firmansyah Palembang, a déclaré mercredi que ce projet était financé par le gouvernement canadien par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada, AMC. Le projet dirigé par World Agroforestry, ICRAF, vise à améliorer la gouvernance du pêchage et à renforcer les moyens de subsistance résilients au climat, en particulier pour les communautés vulnérables et les femmes et les filles en Indonésie. Pour marquer le début de ce projet, le gouvernement provincial du sud de Sumatra, à travers l'Agence de planification du développement régional et mondial de l'agroforesterie, ICRAF, Indonésie, a organisé des ateliers et des discussions avec les parties prenantes. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, est optimiste sur le fait que l'économie du premier trimestre 2020 connaîtra une croissance supérieure à celle du premier trimestre 2021, malgré la variante Omicron de COVID-19 en raison de son caractère différent de la variante Delta, des vaccinations massives et de l'économie en cours. C'est ce qu'a affirmé Sri Mulyani lors de la conférence de presse du Comité de stabilité du système financier KSSK à Jakarta mercredi. Ainsi, au cours des deux mois restants du premier trimestre 2020, où il existe une possibilité de pic de cas Omicron, le gouvernement devrait être en mesure de bien gérer cette variante. Le public peut participer à la prévention d'une augmentation des cas et l'activité économique sera maintenue même si elle connaîtra un léger affaiblissement. Elle a déclaré que bien qu'il y ait une augmentation des cas d'Omicron, la stratégie de gestion actuelle était différente de la variante Delta, surtout si elle était liée à la mobilité communautaire et aux activités économiques qui pouvaient encore fonctionner. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire. Et pour le titre, la Corée du Nord effectue le plus gros lancement de missiles depuis 2017. La Corée du Nord a confirmé lundi 31 janvier qu'il avait testé dimanche le missile balistique à moyenne portée IRBM Hwasong-12. Ainsi, Pyongyang avait établi un record de 7 lancements de missiles en un mois seulement tout au long de janvier 2022, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. Il s'agissait du plus grand lancement de missiles depuis 2017 et a suscité l'inquiétude de la communauté internationale, principalement les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays, dont les Nations Unies. Cette inquiétude n'était pas sans fondement. À pleine puissance, ce missile peut voler sur des milliers de kilomètres au-delà de la Corée du Sud et du Japon, même jusqu'à Guam qui appartient à une base militaire américaine. Par conséquent, les États-Unis, soutenus par l'Angleterre et la France, avaient demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de tenir une réunion à huis clos ce jeudi 3 février pour discuter du lancement de l'IRBM par la Corée du Nord. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné mardi le lancement et a exhorté la Corée du Nord à cesser de pousser plus loin cet acte contre-productif. Selon un porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, l'acte de Pyongyang a violé le moratoire annoncé par le pays en 2018 sur des lancements similaires et une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis 2006, la Corée du Nord est sanctionnée par l'ONU, qui a été renforcée par le Conseil de sécurité pendant des années, dans le but de cibler le financement des programmes nucléaires et des missiles balistiques de Pyongyang. Mais pourquoi la Corée du Nord ose-t-elle encore poursuivre ses essais de missiles? Selon le professeur Kim Dong-yup, ancien commandant de la marine sud-coréenne, le lancement par la Corée du Nord a montré que le pays se dirige rapidement vers une capacité de défense nucléaire efficace et totale. Après les essais de missiles de 5 et 10 janvier, Pyongyang a affirmé avoir testé avec succès un véhicule de glisse hypersonique HGV et un véhicule de rentrée manœuvrable MARV. Il a affirmé que la Corée du Nord développait une technologie capable de vaincre le système coûteux et complexe de défense antimissile des États-Unis et du Japon dans la péninsule coréenne. Cependant, l'objectif principal de la Corée du Nord n'est pas d'attaquer, mais de se défendre. Nous ne pouvons qu'espérer que ce point de vue est juste et conforme à ce qui est prévu par la Corée du Nord. Sinon, la crise dans la péninsule coréenne peut s'aggraver. La paix est toujours belle. Bien qu'elle ne soit pas sans conflit, la paix est une capacité à gérer un conflit de manière pacifique. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 3 février 1944. Les troupes américaines envahissent les îles Marshall. Le traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, stipulait que les îles précédemment contrôlées par l'Allemagne, y compris les îles Marshall, les Carolines et les Mariannes, devaient être cédées au Japon sous la supervision de la Ligue des Nations. Cependant, le Japon a quitté la Ligue des Nations en 1933 et a fait des îles du Pacifique une base militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les îles deviennent la cible d'attaques alliées et finalement, le 3 février 1944, les îles Marshall tombent aux mains des États-Unis. Notre information est sur la première montre électrique au monde présentée à Lancaster le 3 février 1957. Les montres ont été introduites pour la première fois au 16e siècle. À cette époque, toutes les montres et autres pièces d'horlogerie utilisaient des entraînements mécaniques manuels. Les montres à moteur électrique ont été introduites pour la première fois le 3 février 1957 à Lancaster, en Pennsylvanie, aux États-Unis, par Hamilton Watch Company. L'existence des montres électriques n'a pas duré longtemps, jusqu'à ce que Seiko du Japon présente une montre à quartz pour la première batterie au monde. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 3 février 2007, l'attentat suicide au marché de Sadria, Baghdad, en Irak. Un attentat suicide a eu lieu au marché de Sadria, à Baghdad, en faisant exploser un camion piégé le 3 février 2007. Cet attentat suicide a tué au moins 135 personnes et en a blessé 339 autres. La bombe estimée à une tonne a détruit au moins 10 bâtiments et les étals de marché dans cette zone musulmane chiite. Le moment des bombardements était planifié de manière à faire autant de victimes que possible, car ils ont explosé juste avant le couvre-feu, au cours duquel des gens voulaient acheter de la nourriture avant de rentrer chez eux. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kita tuk berpisah merelakan keadaan aku tak lagi satu. Kataan yang ada tak cukup sembuh menghapuskan cinta meski kita.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et encore le titre ITB publie 5 villes soucieuses de changement climatique. Le Centre pour l'innovation urbaine et les communautés intelligentes de l'Institut de technologie de Bandung, ITB, a publié les résultats de la recherche sur les évaluations de la transformation numérique et les villes intelligentes indonésiennes 2021. Sur la base des résultats de l'étude, 5 grandes villes classées au premier rang dans la catégorie des villes sensibilisées au changement climatique. Le chef du Centre d'innovation et des communautés intelligentes d'ITB, le professeur Suwono Harso Supangkat, dans une déclaration écrite à Bandung, mardi a expliqué que les 5 villes sont Semarang, Surabaya, Bogor, Bandung et Tangerang. Le professeur Suwono a expliqué dans la recherche que ce qu'on appelle une ville intelligente est une ville qui peut gérer diverses ressources de manière efficace et efficiente pour résoudre divers défis urbains en utilisant des solutions intelligentes. Cela comprend la fourniture d'infrastructures et la fourniture de services municipaux qui peuvent améliorer la qualité de vie de ses citoyens. L'évaluation dans cette catégorie est réalisée spécifiquement pour déterminer le soutien de la ville pour faire face aux problèmes du changement climatique qui ont un impact sur la chaleur de surface de la Terre provenant de l'augmentation des niveaux de CO2. Les indicateurs utilisés pour mesurer l'accompagnement au changement incluent l'utilisation des énergies renouvelables, réduction des véhicules et la gestion de l'environnement. Plus en détail, les indicateurs traitent de la substitution énergétique, de la mise en place de véhicules économes en énergie, de l'utilisation des transports en commun et de la zone d'espace vert ouvert. Le professeur Son a déclaré qu'à mesure que le flux d'urbanisation augmentait, les problèmes dans les zones urbaines augmentaient également. La densité de population dans les zones urbaines où les conditions de gaz carbonique sont incontrôlées peut menacer le changement climatique mondial. Pendant ce temps, selon l'organisation de la Coalition pour la transition urbaine, les villes sont responsables de 75% des émissions mondiales totales de carbone. À cet égard, plusieurs villes d'Indonésie ont réalisé l'importance de se concentrer sur la réduction de l'impact du changement climatique mondial. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
La ville de Mojokerto dans la province de Jawa Oriental est connue pour abriter non seulement les sites du patrimoine de Majapahit, tels que Trawulan, mais également d'autres attractions touristiques intéressantes telles que Bukit Kayu Putih à Mojokerto. Ce site touristique offre un beau panorama naturel. Au coucher du soleil, sa beauté est présentée sur fond de trois montagnes, à savoir le mont Penanggungan à Mojokerto, le mont Welirang à Blitar et le mont Arjuna. Bukit Kayu Putih est précisément situé dans le district de Jetis, la réserve de Mojokerto en province de Jawa Oriental. La distance entre le centre de la réserve de Mojokerto et Bukit Kayu Putih est d'environ 10,5 km et prend environ 10 à 20 minutes en véhicule à moteur. Le nom Bukit Kayu Putih est inspiré par les contours de la terre qui est remplie de plantes d'eucalyptus. Pour entrer dans cette attraction, vous devez payer un billet d'entrée d'une valeur de 5000 rupiah pour les enfants et pour les adultes, le tarif est de 10 000 rupiah par personne. En voyageant ici, vous pourrez profiter de toutes les vues de Bukit Kayu Putih, à savoir la beauté de trois montagnes à l'est de Java. De plus, vous pouvez également profiter des manèges à Bukit Kayu Putih comme une piscine, des spots de selfie et une aire de restauration vendant des spécialités de Java Oriental. La piscine de Bukit Kayu Putih est spécialement conçue pour les enfants. Ainsi, sa profondeur n'est que de 60 cm. Les parents qui accompagnent leurs enfants peuvent s'asseoir et se détendre sous la tente autour de la piscine. Cette année, Bukit Kayu Putih dispense information sur la fabrication de l'huile d'eucalyptus en collaboration avec Perumpur Hutani. Ensuite, vous pouvez apprendre directement le processus de fabrication de l'huile d'eucalyptus tout en profitant de la vue. Pendant la pandémie de COVID-19, Bukit Kayu Putih met en place des protocoles sanitaires stricts. Ceux d'entre vous qui viennent doivent présenter un certificat de vaccination COVID-19 et scanner l'application Peduli Lindungi. La direction limite le nombre de visiteurs à Bukit Kayu Putih à environ 1000 personnes par jour. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Luka hangat dariku, cium, cium tinggalkan diriku. Kembali kekasih, tak bisa, tak bisa aku terima nyatanya. Kamu jauh dariku, sendiri tak mampu aku tak move on. Oh, I wanna, I want you back now. I am waiting here for you to come. When you hold me, you know I'm the one, the one. Takkan usai, cinta ini belum usai, belum selesai. Takkan usai, cinta ini belum usai, belum selesai. Kau dan aku masih menyimpan cinta, kau pun tahu itu bukan rahasia. Tak usai, jangan kau katakan cinta sudah selesai. Tinggal, tinggal, tinggalkan saja dia.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur, intitulée La tour d'autographe le plus haut bâtiment d'Indonésie. Le plus haut gratte-ciel d'Indonésie avec une hauteur de 382,9 mètres sera achevé. La tour d'autographe fabriquée par Putrajaya Wahana Société Anonyme est située dans la région de Tamarindane, au centre de Jakarta. Avec cette hauteur, la tour d'autographe est dans la catégorie Super Tall, ou plus de 300 mètres, battant le détenteur du record du plus haut bâtiment existant en activité, la tour de Gama appartenant à Gamaland, qui se trouve sur Jalan HR Rasuna Said, Jakarta du Sud. La tour Gama a une hauteur d'environ 285,5 mètres. Le directeur de Putrajaya Wahana Société Anonyme, Nifinli, a déclaré que la tour d'autographe est également le plus haut bâtiment de l'hémisphère du Sud. En plus d'être le plus haut bâtiment d'Indonésie, la tour d'autographe a également diverses fonctions, car elle présente des appartements, des commerces de détail, des hôtels et des bureaux. L'emplacement de ce bâtiment est également très stratégique, car il est entouré de centres de transport en commun, tel que l'arrêt de bus Transjakarta qui est directement relié au MRT et au KRL. Il y a aussi un accès facile à l'aéroport international Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang. Situé au cœur de Jakarta et possède des installations complètes, cela fait que le développement à usage mixte de Tamrin 9 coûte un investissement de 7 000 milliards de roupies. La tour d'autographe a reçu un certificat de platine du BCA Greenmark car il est considéré comme donnant la priorité à diverses caractéristiques respectueuses de l'environnement. Ainsi, il est non seulement bon pour l'environnement, mais apporte également une efficacité optimale à ses utilisateurs. Ses caractéristiques respectueuses de l'environnement, telles que les espaces verts ouverts, les jardins verticaux, le traitement de l'eau et des eaux usées, le stationnement des vélos, ainsi que des conceptions architecturales spéciales et des caractéristiques pour maintenir les températures internes afin d'économiser de l'énergie de cette année. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bye.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Sumatra occidentale intitulée Kampuang Nan Jauh Dimato, chantée par Talia Emerandal et réarrangée par Jeremiah Saputra. Chers auditeurs, cette chanson composée par Oslan Hussein en 1931 raconte l'histoire d'un nomade qui aspire à la beauté de sa ville natale, de ses parents, de sa famille et de ses amis. Bon, chers auditeurs, voici Talia Emerandal va chanter une chanson intitulée Kampuang Nan Jauh Dimato. Bonne écoute.
Kampuang
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!